Bonjour à tous, c'est le temps de le dire et aujourd'hui dans cette émission, nous partons à la découverte de la plus vieille bibliothèque du monde, les manuscrits de Qumran, découverts il y a un peu plus de 60 ans à quelques encablures de la mer Morte, un trésor inestimable, à la fois site archéologique et collection sans équivalent de manuscrits datant du tournant de notre ère. Une découverte sensationnelle, mise à l'honneur ces temps-ci à Paris, à travers une importante exposition présentée à la Bibliothèque Nationale de France, qu'est François Mitterrand, jusqu'au début juillet, jusqu'au 11 juillet. Alors, Qumran éclaire d'un jour nouveau le judaïsme et le christianisme de la Judée antique, mais si les connaissances avancent grâce au travail des chercheurs, Qumran reste encore une énigme sur de nombreux points. Aujourd'hui, dans cette émission, nous avons droit à une visite guidée privilégiée. N'hésitez pas à venir, à participer, à poser vos questions. Notre guide pour le moment, est là pour vous répondre. Vous êtes tous les bienvenus. Je vous rappelle l'adresse mail, le temps de le dire, atercf.fr en minuscule et tout attaché, ou si vous préférez, le téléphone.
Vos questions, vos réactions au 04 72 38 20 23.
Et au standard, c'est Marie-Laure qui accueille vos appels. Alors notre invité, unique pour le moment, bonjour Michael Langlois.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes, on vient juste d'arriver tous les deux, il y a eu des petits soucis de transport. Donc je vais vérifier que je n'ai pas écrit de bêtises. Hein. Vous êtes historien?
Oui.
Philologue?
Oui.
Spécialiste des littératures hébraïques et arméennes?
Oui.
Vous travaillez à la Sorbonne et à Strasbourg?
Oui, je suis maître de conférence à l'université de Strasbourg. Je ne travaille pas à la Sorbonne, j'ai fait mes études à la Sorbonne.
Voilà. J'ai quand même quelques bêtises. Alors, sinon, au CERF, aux éditions du CERF, vous dirigez la bibliothèque Qumran.
Oui, je co-dirige, c'est pareil, je ne suis pas le seul.
Voilà. Et une nouvelle collection consacrée à la naissance de la Bible?
Absolument, oui, ça c'est tout nouveau, c'est des infos de première main, puisque en réalité la collection n'est même pas encore sortie, ça devrait sortir cette année ou l'an prochain.
C'est un scoop?
Oui, c'est un scoop.
Voilà, bon, voilà. Et puis, vous êtes aussi un des co-auteurs?
Oui.
Du catalogue de l'exposition présentée à la Bibliothèque Nationale, Qumran, le secret des manuscrits de la mer morte, qui est un très beau catalogue, très complet et très accessible, j'ai tout compris, presque tout.
Merci.
Compris. Voilà. Vous allez être avec nous pendant toute cette émission, et puis merci, vous répondrez aux appels des auditeurs, et puis surtout à toutes mes questions qui sont très nombreuses, vous verrez.
Le temps de le dire, Stéphanie Gallet.
Alors, je voudrais pour commencer qu'on vous connaisse un petit peu mieux, Michael Langlois. Comment est-ce que vous êtes entré en contact avec Qumran?
Alors, moi, j'avais d'abord une formation plus générale sur la Bible et le Proche-Orient ancien. Et c'est vrai que c'est au cours de ces études qu'on a commencé à me parler des manuscrits de la mer morte. C'est vrai que c'était assez mystérieux parce qu'on en entend parler. On a souvent entendu justement beaucoup de récits, des théories de complot. Il y a des fantasmes pas possibles. Et puis, c'est vrai que, dans une certaine mesure, il faut le reconnaître, quand on étudie la Bible, les exégètes, les théologiens font pas beaucoup référence aux manuscrits de la mer morte. Et c'est vrai que ça m'avait intrigué. Et il a fallu attendre justement que je fasse des études de philologie, d'hébreu, d'araméen ancien, pour qu'on commence à travailler sur ces manuscrits, que je commence à les découvrir.
Alors, vous avez approché physiquement ces manuscrits?
Oui, absolument. J'ai passé 2 ans à Jérusalem et il y a très très peu de gens, à vrai dire, qui ont l'autorisation de travailler à même les manuscrits. Mais comme j'étais en collaboration avec l'Université hébraïque de Jérusalem, eh bien, on m'a donné l'autorisation, une autorisation exceptionnelle de pouvoir travailler à même ces fragments qui sont extrêmement précieux, comme vous l'imaginez.
Eh bien voilà, donc vous allez nous dire, et ça vous a... j'imagine qu'il y a une certaine émotion à approcher ces fragments de manuscrits si anciens.
Oui, absolument, c'est une émotion. C'est-à-dire que pendant des années, on travaille sur des photographies, donc on sait qu'ils existent, on peut même les regarder, on peut zoomer dessus à l'ordinateur, mais le fait d'avoir un contact direct avec ce matériau et de se dire ce que j'ai là sous les yeux, ce sont des fragments qui ont plus de 2000 ans, ce sont les plus anciens manuscrits de la Bible ou de la littérature juive ancienne, c'est une émotion incroyable.
Alors vous êtes en direct, c'est RCF que vous écoutez, le temps de le dire, et notre deuxième invité vient d'arriver. On lui laisse le temps un peu de souffler encore, ça va aller?
Ça va.
Bonjour Jean-Baptiste Imbert. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous vous rapprochez un petit peu du micro? Voilà, vous avez de l'eau si vous avez soif. Alors je vous présente, alors comme on n'a pas eu le temps de vérifier, on verra si je ne dis pas de bêtises. Vous êtes responsable du département archéologie de l'école biblique de Jérusalem?
Oui, tout à fait, c'est depuis quelques temps.
Vous résidez à Jérusalem depuis 1969?
Voilà, plus de 40 ans.
40 ans.
C'est trop.
Vous avez dirigé la publication des fouilles archéologiques du père
Je de dirige.
Vous dirigez,
c'est pas fini.
C'est un long travail. Donc le père de Vaux, on peut peut-être en dire quelques mots?
Oui, le père de Vaux était une espèce de génie séducteur et passionnant. Et puis il avait l'intention de publier avant de disparaître, comme... comme tout le monde. Et puis il a disparu sans avoir publié la fouille qu'il devait. Donc nous nous sommes attelés à cette tâche.
Alors sa fouille, c'est Qumran, hein ?
Oui, quoi, oui, effectivement, oui, je suppose. Mais il a fait d'autres fouilles. Mm. Et il a fallu reprendre une fouille qui était vieillie, on dirait un matériau archéologique vieilli avec le temps. Donc il a fallu reprendre ça à bras-le-corps et ça n'a pas été facile et c'est pourquoi ce n'est pas fini.
Alors vous avez participé à de nombreux chantiers de fouilles au Proche-Orient et un peu en lien avec l'actualité, vous travaillez aussi à Gaza ?
Oui, entre autres, oui.
On travaille à Gaza comme n'importe où ailleurs en archéologie ou c'est un peu différent ?
Quand vous êtes sur le chantier, c'est comme partout ailleurs. Il y a la poussière, là, les briques, les tessons. Et puis Gaza est un milieu assez particulier, un peu bridé. Mais tellement agréable. La mer, la plage, les palmiers. Les gens n'imaginent pas que c'est un petit pays très charmant et qui ne demande qu'à être heureux.
Alors pour y arriver, c'est plus compliqué.
Ah, pour y arriver, oui, il faut passer par les fourches caudines de l'armée d'occupation.
Voilà. Bon, alors c'est pas le sujet de l'émission, mais on peut quand même en faire un petit clin d'œil. Et alors, vous avez aussi, vous avez publié de nombreux livres, mais on va citer entre autres un qui est tout à fait accessible encore au plus grand nombre, c'est l'affaire Qumran, les découvertes de la mer morte. C'est un découverte Gallimard avec notre amie Estelle Villeneuve. Voilà, merci beaucoup d'être arrivée. Ça fait très plaisir de faire cette émission avec tous les deux. Voilà, je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent participer à l'émission. Ils nous appellent au 04 72 38 20 23. Jean-Baptiste Imbert, vous, la première fois que vous êtes entré en contact avec les manuscrits de la mer morte, c'était dans quelles circonstances ?
Heureusement pour moi, je n'ai pas de contact avec les manuscrits. Donc je ne m'occupe que du site,
ouais.
Et c'est déjà beaucoup, je ne demande pas plus.
Alors la première fois que vous êtes entré en contact avec le site ?
Mais le site, on n'entre pas en contact puisque comme un touriste ou comme un pèlerin, un lambda...
N'importe qui peut aller à Qumran aujourd'hui ?
Ah, tout à fait, même. Ils font, je crois, 750 000 entrées par an. Donc c'est même une affaire commerciale et assez juteuse, puisqu'il faut payer le billet d'entrée. Mmh. Alors on va à Qumran.
Donc vous travaillez au milieu des touristes ?
Pas vraiment, parce que on travaille sur une documentation. Le matériau est à Jérusalem. Mmh. Donc il m'arrive effectivement assez souvent de revenir sur le site pour vérifier tel ou tel détail qui aurait échappé aux fouilleurs. Et c'est une tâche assez difficile, puisque... Le site a été restauré à maintes reprises, il a été pommadé, maquillé, et en plus ils ont mis des passerelles partout pour faciliter le transit des touristes. Alors il y a parfois les détails à voir sous la passerelle, il faut aller à quatre pattes, et on se fait disputer par les gardiens, enfin bon, c'est une vérification assez particulière.
Alors c'est où Qumran exactement ? Pour les auditeurs.
C'est au bord de la mer Morte, vers le nord, et c'était grosso modo à proximité du rivage, qui, comme chacun sait, recule d'année en année, puisque la mer baisse d'un mètre par an. Alors que nous avions les restes d'une belle oasis au bord du rivage, aujourd'hui on a 2 kilomètres de boue avant d'arriver jusqu'à l'eau.
Donc en faisant connaissance avec vous, là on a bien compris, Qumran c'est à la fois un site archéologique sur lequel vous travaillez, Jean-Baptiste Imbert, et une documentation impressionnante sur laquelle vous avez travaillé, Michael Langlois. Alors on va commencer par le site peut-être, vous nous racontez ce qu'on a trouvé sur ce site.
Ah le site est moche.
Le site est moche, c'est pas un beau site archéologique ?
Non. Heureusement il y a un paysage magnifique, les montagnes sont roses, la mer est bleue, le ciel est magnifique, il fait assez chaud, au printemps c'est paradisiaque. Mais les ruines sont très décevantes pour les pèlerins, pour les touristes, il n'y a pas grand chose à voir, c'est rasé. Il y a des éléments de murs, des chambres, rien de spectaculaire, aucun élément décoratif qui pourrait charmer le visiteur. Donc la visite est, je le vois,
rapide.
Non, alors les guides qui sont là vous font un flafla. En fait, ils parlent des manuscrits, ils ne parlent pas du site. On parle des Esséniens, on fait une grande soupe, une grande saga, et puis alors les gens ouvrent la bouche, ouvrent les yeux, regardent, et puis ils partent au bout de 20 minutes.
Alors pourquoi c'est quand même un site intéressant ? Il n'est intéressant que par les manuscrits ?
Mais il est intéressant, pour, à mon avis, pour deux raisons. Pour tout pèlerin, laïque ou juif, bon, comme disait Michael, on arrive dans un endroit où le judaïsme primitif a vibré d'une manière très sensible, très particulière. Et on est là sur un haut lieu. Pour le christianisme, les chrétiens, les pèlerins, c'est évidemment un lieu aussi assez fort. Parce que comme les antiquités chrétiennes manquent en Terre Sainte jusqu'à l'époque byzantine, eh bien Qumran remplace. C'est le premier siècle, c'est juif, il y a dans l'air comme cela des bribes qui passent, que Jean-Baptiste aurait été de la communauté de Qumran, que le Jésus de l'histoire a bien des traits qui rappellent l'essénisme. Alors bon, on fait la soupe et ça marche très très bien.
Alors pour l'archéologue que vous êtes, pourquoi ce site est intéressant ?
Oui, alors c'est plus technique. Le site, on m'a demandé de le faire, j'ai pas demandé, on m'a demandé de le faire, donc j'ai fait.
Vous exécutez ?
Au début, oui, bof, c'est pas vibrant du tout. Mais avec le temps, c'est un site tellement énigmatique qu'on voudrait, on veut, on cherche la solution. Et pour un archéologue, c'est quand même une espèce de défi. Et c'est tout à fait passionnant.
Alors, on parle de 11 grottes, c'est ça ? Qu'est-ce qu'il y a dans ce site de Qumran ?
Oh, il y a des centaines de grottes.
Des centaines de grottes.
Il y a des centaines de grottes. Beaucoup ont été, non pas habitées, mais fréquentées. Il y en a 11 seulement qui ont fourni des manuscrits ou les restes de manuscrits. Donc on peut, si on a le temps, marcher le long de la falaise, les atteindre. Évidemment, on voit la grotte 1, on voit la grotte 3, on voit la grotte 11. Là, on grimpe dans la grotte 2. C'est pittoresque, si vous voulez. Et on reste quand même assez ému, pourquoi ne pas le dire, lorsque devant certaines grottes, on réalise soudain ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé quand même est une espèce d'histoire formidable. On en tient les bribes, on en tient l'essentiel, cette espèce de menace romaine, le conflit incroyable qui agite tout l'Orient à ce moment-là sous la pression romaine. Et on voit ces juifs énervés, on voit ces juifs mystiques, extatiques, un peu bizarres. J'ai pas une immense sympathie, mais peu importe. On les voit s'affoler, cacher leurs trésors, disparaître, et probablement pour la plupart d'entre eux ne jamais revenir.
Se faire zigouiller ou...
Comment ?
Se faire zigouiller ou aller mourir de l'Alberne mort un peu plus loin, c'est ça ?
Oui, plutôt, oui, moitié-moitié. Quelques-uns ont résisté par la force. Ils ont peut-être, pour un certain nombre d'entre eux, payé de leur vie, mais les autres se sont dissous. Le judaïsme, jusqu'en 70, est un judaïsme assez spécial, centré sur le temple, un certain nombre de pratiques que Michael connaît mieux que moi. Et... après la catastrophe de 70, on passe à un autre judaïsme qui est plus intellectuel.
Donc la catastrophe de 70, c'est la destruction du temple de Jérusalem.
La destruction du temple et puis la destruction de la Judée. Et l'interdiction des juifs de rester dans Jérusalem, etc. etc. Donc il y a ici tout un climat de menaces, d'angoisses, de tragédies qui est dans toutes les mémoires.
Alors qui sont les... À part les grottes, il y a quand même un certain nombre de restes. On sait qu'il y aura eu une sorte de forteresse, quelque chose comme ça, non ?
C'est un site un peu idiot, on n'arrive pas à l'expliquer, c'est pas un village, c'est pas un temple, ce n'est pas un centre communautaire, c'est pas un centre industriel, on ne sait pas ce que c'est. Et parce que c'est tout à fait bizarre, moi je dis le plan, je dis toujours le plan de Qumran, quand on le regarde, ça ressemble à un moustique écrasé sur une vitre, hein, donc ça n'a pas beaucoup de cohérence, ce n'est pas rationnel. Donc un site qui n'est pas très rationnel, il faut chercher une solution irrationnelle. Et à mon avis, qu'on y voit un centre de mystiques juifs ou autres, irait bien.
Ça, vous irait bien. Alors on reviendra sur la question des Esséniens. Je vous propose de demander à Michael qu'il nous parle de ces manuscrits. Qu'est-ce qu'on a trouvé dans ces grottes qui rendent ce site si célèbre ? Parce qu'en écoutant Jean-Baptiste Imbert, on a quand même l'impression que s'il n'y avait pas eu les manuscrits, on ne se serait pas intéressé à Qumran. Vous êtes d'accord ?
Tout à fait.
Tout à fait. Alors, parlons du vif du sujet, ces manuscrits, Michael Langlois. Qu'est-ce qu'on a trouvé dans ces grottes exactement ? Alors, on ne va pas revenir sur la découverte rocambolesque en 47 des manuscrits, les chèvres perdues dans la grotte, le petit berger, les antiquaires qui se bataillent. Ça. Aujourd'hui, à peu près, on sait que 90% des manuscrits ont été retrouvés ou il y en a dans les bibliothèques privées des...
Alors oui, bon, les manuscrits effectivement ont été trouvés dans des grottes. Comme le disait Jean-Baptiste Imbert, c'est une région dans laquelle il y a plein de grottes. Il y a des centaines de grottes, la falaise est poreuse, il y a des anfractuosités un peu partout. Et c'est vrai qu'on a découvert des manuscrits dans 11 grottes autour de Qumran. On a découvert des manuscrits un peu ailleurs, au bord de la mer Morte. Mais c'est vrai que c'est quand même, j'allais dire, sur Qumran, aux alentours de Qumran, qu'on a trouvé la grosse masse des manuscrits. C'est 900 manuscrits un petit peu précis, pour vous donner une idée de la quantité que ça représente, 900 manuscrits qui datent tous du tournant de notre ère, entre, on va dire, le 3e siècle avant notre ère et le 1er siècle de notre ère. Donc ça, c'est une quantité phénoménale de manuscrits qui représente aujourd'hui la première source de documentation du judaïsme de l'époque.
Alors, quels sont les styles de manuscrits? Qu'est-ce qu'on trouve sur ces manuscrits?
Alors, déjà, commençons par les manuscrits de la Bible. Déjà, je pense que c'est ce qui intéresse la plupart de nos auditeurs, c'est qu'à Qumran, on a découvert des manuscrits bibliques. À peu près un quart des manuscrits qu'on a découverts sont des manuscrits qui correspondent à des livres de la Bible hébraïque. C'est l'Ancien Testament des chrétiens, si vous voulez. Et ça, c'est déjà une...
La Torah des juifs.
Oui, c'est ça, parce que, voilà, la Bible hébraïque. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est qu'avant la découverte des manuscrits de la Mer Morte, la Bible, on la connaissait, la Bible hébraïque, on la connaissait, on avait des manuscrits complets de la Bible hébraïque, mais ceux-ci étaient des manuscrits médiévaux. À vrai dire, le plus ancien manuscrit totalement complet de la Bible, il date de l'an 1000 de notre ère à peu près. Et c'est pour vous dire que d'un seul coup, à Qumran, en récupérant ces manuscrits hébreux de la Bible, eh bien d'un seul coup, on fait un bond de 1000 ans en arrière. Et ça, c'est une découverte fabuleuse en tant que telle.
Alors, en plus, en dehors des manuscrits de la Bible, quels sont les autres manuscrits qu'on a pu trouver dans les grottes?
Alors, à côté des manuscrits de la Bible, on a ce qu'on appelle les manuscrits parabibliques. Alors, évidemment, c'est un terme que les scientifiques utilisent qui ne veut pas dire grand-chose, si ce n'est que c'est des manuscrits autres que ceux de la Bible. Et d'ailleurs, on voit que la terminologie, tout de suite, elle est un petit peu trompeuse. Le fait de faire une distinction d'un côté en disant qu'il y a des manuscrits bibliques, d'une part, et des manuscrits parabibliques, d'autre part.
Il y a des manuscrits qui sont ceux de notre Bible d'aujourd'hui, c'est ça, et d'autres qu'on
voilà,
a appartenu
ça.
Ou n'a pas
c'est,
conservé.
C'est un regard qu'on a aujourd'hui sur ces manuscrits. On les met, on en fait deux tas, on les met d'un côté, on les met de l'autre. Dans les grottes, les manuscrits sont mélangés. Donc nous, aujourd'hui, on a ce regard, on a notre Bible, et on regarde les livres de notre Bible qui sont attestés à Qumran, et puis ensuite, on regarde ceux qui ne sont pas dans notre Bible et qu'on a découvert à Qumran. Et ça, en réalité, c'est l'essentiel de la documentation. Les trois quarts des manuscrits qu'on a découverts à Qumran ne font pas partie de la Bible hébraïque. Alors, on a des textes qui ressemblent pour la plupart à ce qu'on a dans la Bible ou qui auraient pu, à la limite, figurer dans nos Bibles. On va retrouver des récits, d'ailleurs parfois des récits qui reprennent des épisodes de la Bible. On va retrouver le récit de l'histoire de Noé, de l'histoire d'Abraham, on va parler de Joseph, on va parler d'un certain nombre de personnages qu'on connaît dans la Bible, de Moïse, et avec d'autres traditions ou des détails de l'histoire que l'on ne connaissait pas, qu'on va retrouver dans ces manuscrits. C'est pour ça que parfois certains ont dit qu'il s'agit d'une Bible réécrite. En fait, c'est une Bible qui est en cours d'écriture, pas forcément réécrite, mais vraiment en cours d'écriture.
Alors on reviendra au cours d'émission sur ce que ça nous éclaire de notre Bible. Mais il y a aussi des livres de vie quotidienne, non ?
On a quelques manuscrits, et c'est vrai, c'est une minorité, qui détaille la vie quotidienne de deux types. Soit c'est une vie quotidienne individuelle, et là, effectivement, on va avoir des considérations, les questions que tout un chacun peut se poser durant les grandes périodes de sa vie. Il y a par exemple des textes qui cherchent à déterminer la fortune, c'est-à-dire le destin, le malheur ou le bonheur d'une personne en fonction des circonstances de sa naissance. C'est un petit peu
astrologie.
C'est un petit peu de l'astrologie, voilà, exactement. Et puis, on a aussi une vie quotidienne communautaire, puisqu'on a un manuscrit qu'on appelle d'ailleurs communément la règle de la communauté. Ça se présente un peu comme une règle, peut-être on pourrait dire que c'est l'ancêtre des règles monastiques, où on décrit la vie en communauté, en disant, voilà, si quelqu'un veut rejoindre la communauté, alors il y a telle étape à franchir, il va être novice pendant quelques années, on va l'évaluer, et puis on explique ce qui se passe tous les jours, on prend les repas en commun, il y a la prière, il y a le bain rituel, etc., etc.
Dans quel état ces manuscrits ont été retrouvés? Peut-être que Jean-Baptiste Imbert.
Il y a deux séries. Il y a une série qui a été trouvée en très bon état. Je crois que la grotte 1 a fourni des manuscrits assez complets. C'est pourquoi les intermédiaires ont livré aux acheteurs des manuscrits. Au moins un est complet. Il fait 7,40 m de longueur, donc c'est un beau document.
C'est des rouleaux comme on utilise encore dans les synagogues
oui,
aujourd'hui,
tout à
c'est
fait,
ça
tout à fait, ce sont des rouleaux assez étroits, mais très longs. Et il y a, disons, 5 ou 6 ou 7 rouleaux assez complets, et le reste est en miettes. Alors, lorsque Michael dit qu'on a trouvé 900 rouleaux, j'allais intervenir en disant on a trouvé les restes de 900 rouleaux. C'est-à-dire, ça a été un travail considérable qu'il va expliquer, mais d'essayer d'identifier par des fragments quel livre de la Bible c'est ou quel livre de la non-Bible c'est.
Et alors, ils sont écrits en quelle langue, ces rouleaux ?
Alors, la première langue, c'est l'hébreu, bien évidemment, puisque c'est la langue liturgique, la langue sacrée, traditionnelle du judaïsme. Donc,
on avait déjà des manuscrits en hébreu de cette époque ?
On avait un manuscrit hébreu de cette époque, le papyrus Nash qu'on avait découvert peu de temps auparavant, qui était un manuscrit liturgique, qui contenait notamment les 10 commandements, etc. Mais c'était un tout petit manuscrit. C'était le seul manuscrit hébreu ancien qu'on avait avant la découverte de Qumran. Ce qui a posé problème d'ailleurs même pour dater ces manuscrits. Quand les premiers manuscrits ont été découverts et présentés à des spécialistes, à des épigraphistes, ils ont eu bien du mal à comparer l'écriture pour pouvoir dater en disant à quelle époque est-ce qu'on écrivait de cette façon-là. On avait peu de points de comparaison.
Alors, en hébreu, et puis d'autres
manuscrits. Alors, donc, l'hébreu, c'est la première langue, la langue majoritaire. Ensuite, on a l'araméen.
Et alors, c'est un hébreu qui est facile à lire, enfin, on déchiffre sans problème quand on maîtrise cette langue
Alors, c'est. Non, enfin, oui et non. Ça reste de l'hébreu. Donc, pour ceux qui connaissent l'hébreu biblique, effectivement, on est en territoire connu. En même temps, c'est un hébreu qui présente déjà des évolutions. Et c'est très intéressant, puisque, comme on venait de le dire, il y avait un trou dans la documentation. On avait d'un côté l'hébreu de la Bible, et puis ensuite, on avait l'hébreu de la Mishnah et du Talmud, donc l'hébreu rabbinique médiéval. Et on avait plusieurs siècles de trous. Et d'ailleurs, même certains spécialistes disaient, en fait, l'hébreu est devenu une langue morte, plus personne ne l'a parlé, et puis l'hébreu a été figé, et puis il a été ressuscité à l'époque de la Mishnah. Aujourd'hui, grâce au manuscrit La Mer Morte, on se rend compte que c'est pas le cas, que l'hébreu a continué à être utilisé, a continué à évoluer, donc on observe des évolutions linguistiques comme dans toute langue, j'allais dire, on parle pas français aujourd'hui au XXe siècle, comme on parlait au XIXe ou au XVIIIe.
Alors, des manuscrits en hébreu, et puis d'autres.
Donc la deuxième langue, c'est l'araméen. L'araméen, c'est une langue très proche de l'hébreu, une langue sœur, comme je dirais le français et l'italien aujourd'hui, c'est des langues sœurs.
L'araméen, c'est la langue du Christ.
On dit que c'est la langue du Christ. Oui, absolument. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'hébreu est une langue locale. L'hébreu est parlé en Judée, donc à Jérusalem et puis autour, dans un rayon peut-être de 30, 40, 50 kilomètres autour de Jérusalem, alors que l'araméen s'est imposé dès le début du premier millénaire avant notre ère comme une langue parlée un peu partout au Proche-Orient, à tel point que...
C'est comme l'anglais d'aujourd'hui.
C'est comme l'anglais d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il s'est vraiment imposé, c'est devenu une langue administrative, ce qui fait qu'on parlait araméen à l'époque de l'Empire perse, donc quelques siècles avant Qumran, on parlait araméen depuis la vallée de l'Indus, donc au-delà de l'Iran actuel, jusqu'au sud de l'Égypte, ce qui correspond au site d'Aswan aujourd'hui en Égypte. Donc c'est pour vous dire l'étendue de l'araméen, et l'hébreu, au milieu de tout ça, c'est une petite langue locale.
Jean-Baptiste Imbert, est-ce qu'on a trouvé d'autres objets sur le site de Qumran que les manuscrits ?
Il y a tout un mobilier, il y a une céramique très abondante, puisque les sites qui sont détruits livrent toujours un mobilier abondant. Les gens sont partis en catastrophe sans rien emporter. Les toits tombent et l'archéologue enlève le toit tombé et retrouve tout le mobilier. Il y a énormément de céramique, il y a beaucoup de pièces de métal, et puis il y a aussi, on a compté à peu près 80 graffitis sur pierre, sur céramique. Et tout cela fait un lien extraordinaire avec les manuscrits, parce qu'on peut comparer les éléments écrits que l'on a issus du site avec les documents.
Oui, absolument.
Alors, c'est des manuscrits comme dans les toilettes, des manuscrits, c'est des graffitis comme dans les toilettes, ou c'est des graffitis religieux? Enfin, qu'est-ce qu'ils nous disent, ces graffitis?
Oui, ce sont des noms. Ce sont des bribes de noms, de contrats, des choses comme ça. Non, ce n'est pas forcément religieux. Les gens écrivaient aussi, ils n'écrivaient pas seulement que dans la sacristie.
Oui, mais ce n'est pas pour dire Nicolas aime Julie. C'est un peu plus élevé que ça. Il faut encore que c'est très élevé.
Non, à peu près. Non, je dirais à peu près, ce sont des bribes. Ça, c'est un autre dossier, si vous voulez. On pourrait faire une émission là-dessus. Mais sur les graffitis sur les rochers du Proche-Orient, vous en avez des millions. Et c'est toujours très court, et c'est toujours des choses très banales de la vie quotidienne.
Alors moi, en fait, si je vous posais la question des autres objets, c'est que je voulais vous faire parler des urnes qui contenaient les manuscrits.
Ah, les fameuses jarres.
Les fameuses jarres, voilà. Alors je cherche, j'ouvre le livre.
Ah, les
voilà.
Fameuses jarres, oui, c'est
oui.
Ça.
Oui, non, vous n'avez pas envie d'en parler, Jean-Baptiste Imbert ?
Aussi, oh, tout à fait, mais enfin, les jarres, si vous voulez, on les montre partout. On les montre partout.
C'est pas si important que ça ?
Si, c'est quand même important parce que... non, mais je dis, on les montre partout parce qu'il y en a d'autres. Il y a d'autres jarres qui n'ont pas cette forme. Donc, il y a quand même tout un répertoire de jarres qui dépasse celui que l'on montre. Alors, les jarres manuscrits, en fait, sont un apax, j'allais dire. Enfin, dans la céramique, c'est quelque chose où on n'a pas de parallèle. Il n'y en a qu'à Qumran. Alors, on a fait des analyses, des tests pour essayer de savoir où elles étaient fabriquées. Elles sont probablement fabriquées à Qumran. Les jarres dites à manuscrits sont on atteint peut-être quand même 70 exemplaires, ce qui est quand même pas mal, récupérés en morceaux sur le déblais de la grotte 1, les Bédouins les avaient jetés, etc. Ce sont des jarres très très particulières. En fait, si on les regarde en fragments, si on n'avait pas trouvé des jarres complètes, on se demanderait quelle forme elles ont. En fait, ce sont des tuyaux. Si vous ouvrez l'autre bout, eh bien, c'est le tuyau que les Romains ont inventé pour faire des drains, des égouts, des alimentations en eau. On les emboîte, il y a un côté mâle, un côté femelle, etc. Et puis, les gens, à un moment donné, ont décidé qu'ils pouvaient, de ce tuyau, en faire une jarre. Effectivement, c'est un conteneur assez vaste. La plus haute fait quand même 1 mètre de hauteur. Et elles étaient toutes adaptées avec un col qui permettait de mettre un couvercle. Et dans un certain nombre de cas, les couvercles ont des petites anses pour attacher une ficelle et, dans une certaine mesure, sceller la jarre.
Et ça servait à protéger les manuscrits ?
Les jarres, dans l'Antiquité, c'est une valise. On met tout dedans. On met du grain, on met des chiffons, on met de l'huile, on met du vin, on met de l'eau, on met des manuscrits. Donc c'est un conteneur en dur où les insectes n'entrent pas, où les rats ne peuvent pas rentrer. Donc c'est un conteneur qui permet de sauvegarder la nourriture et les manuscrits.
C'est ce qui explique la bonne conservation des manuscrits ou pas ?
Certainement.
Certainement.
Certainement. J'ai un exemple d'un col de jarre avec une petite ficelle et des restes d'enduit de bitume qui montrent que dans certains cas, les jarres étaient vraiment scellées.
Michael Langlois, les manuscrits étaient fabriqués de quelle façon ?
Alors on a deux supports principaux. Le premier, c'est la peau animale. On prend une chèvre, un mouton, on tanne la peau, on prépare des feuilles, on va les coudre ensemble, bout à bout, pour faire donc une longue, parfois plusieurs mètres de long. Jean-Baptiste disait tout à l'heure, on a des manuscrits qui font plus de 7 mètres de long si on les déroule totalement. Et donc ça nous fait cette grande surface d'écriture et puis on fait des colonnes. Alors ça, c'est le support privilégié. Le deuxième support qui est bien attesté à Qumran également, c'est le papyrus. Papyrus, j'imagine nos auditeurs connaissent bien ça, en Égypte il y en a beaucoup. Eh bien à Qumran aussi, on a aussi écrit sur du papyrus.
Alors on va arrêter, c'est la fin de la première partie de cette émission. On va demander à Michel, qui a bien appelé au standard, de patienter quelques minutes le temps des informations. Et nous on continuera à parler de ces manuscrits de Qumran et de ce qu'ils nous disent du monde juif de cette époque et de la Bible.
Vous écoutez RCF, il est 10h03, les manuscrits de Qumran, suite de la deuxième partie du temps de le dire. Stéphanie Gallet, c'est à vous.
Merci Michel, à dans une heure.
Le temps de le dire, 04 72 38 20 23.
Et c'est reparti pour une heure consacrée à la découverte de ces manuscrits de Qumran qui passionnent. Jean-Baptiste Imbert me disait que c'est dans l'air du temps, hein, tout le monde s'intéresse à Qumran. Alors si vous aussi vous intéressez à Qumran, vous nous appelez pour nous dire qu'est-ce qui vous fascine dans cette histoire de Qumran. Ça intéresse les professionnels de la question. Donc Jean-Baptiste Imbert, qui est archéologue, responsable du département archéologie de l'école biblique de Jérusalem, qui travaille à la publication des fouilles archéologiques du Père Devaux à la Qumran. Et puis Michael Langlois, historien, philologue, spécialiste des littératures hébraïques et araméennes, et puis conseiller scientifique de l'exposition de la Bibliothèque nationale de France sur Qumran. Vous nous appelez au 04 72 38 20 23, et la grande question, est-ce que Michel, qui était dans l'Ardèche tout à l'heure, est toujours en ligne avec nous ?
Oui.
Allô. Super, bonjour Michel.
Oui, je suis là.
On vous écoute.
Bonjour. Voilà, jusqu'à présent, vous avez surtout parlé de la forme du conte de l'environnement, du tourisme, etc. Moi, ce qui m'intéresserait surtout, c'est le contenu des manuscrits de la Mer Morte, et surtout s'il y a quelque chose de révolutionnaire, de vraiment nouveau à l'intérieur de ces manuscrits. Et j'aurais une question très très précise pour tout résumer. Je voudrais savoir si, étant donné que je me suis laissé dire que les Esséniens croyaient à la réincarnation, je voudrais savoir s'il y a quelque chose à ce sujet dans l'ensemble des manuscrits de la Mer Morte. Voilà ma question.
Eh bien, merci beaucoup, Michel, pour votre question. Alors, puisque vous posez la question sur les Esséniens, avant de parler des Esséniens et de la réincarnation, on va peut-être dire qui sont ces Esséniens et quels sont les liens qu'ils peuvent avoir avec le site de Qumran. Alors, qui veut répondre ? Michael ?
Oui, pour les sources historiques, les Esséniens, à vrai dire, on ne sait pas grand-chose sur eux dans l'Antiquité. On vient consulter les sources antiques. Il y a des historiens de l'Antiquité, des Juifs notamment, Flavius Joseph, Philon d'Alexandrie, Pline l'Ancien, Égyptiens. Bref, on a quelques historiens qui nous parlent des Esséniens. Donc on arrive à savoir certaines choses sur eux. Par exemple, Flavius Joseph nous dit, eh bien voilà, il y a trois grandes... Alors, le terme secte est un petit peu gênant aujourd'hui parce qu'il est péjoratif, mais on va dire trois grands mouvements juifs à l'époque, les pharisiens, les sadducéens et les Esséniens. Alors, les pharisiens et les sadducéens, ils sont par exemple bien présents dans les évangiles. Dans les évangiles, on les a, mais les Esséniens, pas du tout. Et alors, il décrit effectivement ce qu'on sait sur les Esséniens, des gens qui insistent sur la pureté, des gens qui peut-être effectivement sont en désaccord sur certains points de croyance avec les autres mouvements juifs. Les Esséniens qui affectionnent des aspects communautaires, prendre des repas en commun, pas forcément vivre ensemble, mais en tout cas manger ensemble. Et puis, parfois, les sources sont un peu contradictoires. Dans certaines sources, on nous dit les Esséniens vivent à l'écart, ils ont un lieu de vie communautaire et ils sont un petit peu à l'écart de la population, alors que dans d'autres sources, on dit mais non, ils sont partout, dans toutes les villes, les grandes villes, même les villages, etc. Il y a des Esséniens partout. Donc en réalité, les sources sur les Esséniens sont un petit peu lacunaires, et c'est ce qui a permis, j'allais dire, de leur attribuer tout un tas de fantasmes sur justement ce qu'on imaginait, sur ce que des Juifs pouvaient être à l'époque. Et au fur et à mesure des siècles, les Esséniens ont connu une fortune dans la littérature en Occident qui est assez impressionnante. Chez les francs-maçons, oui, bien sûr, et puis à tel point que, et puis alors effectivement, on voulait faire les liens entre les Esséniens et les chrétiens, et d'ailleurs Renan disait au 19e siècle, il disait le christianisme est un essénisme qui a réussi. Donc effectivement, on avait tous ces fantasmes sur les Esséniens, ce qui a fait que très rapidement, quand on a découvert les manuscrits de Qumran et qu'on s'est dit tiens, ça doit pas être pharisien, ça doit pas être sadducéen, on s'est dit on a enfin on a de la littérature essénienne de première main.
Alors pour revenir à la question de Michel, est-ce qu'on sait si les Esséniens croyaient à la réincarnation?
Je pense que Michel voulait parler de la résurrection, pas de la réincarnation. Il n'y a pas de réincarnation dans le judaïsme, dans aucune branche du judaïsme. En revanche, la résurrection, oui, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'il y a une croyance en la résurrection ou non? Et c'est vrai qu'on sait que les juifs de l'époque n'étaient pas tous d'accord sur ces questions-là. Alors, pour savoir si les Esséniens croyaient en la résurrection, il faut se poser la question de savoir est-ce que les manuscrits de la Mer Morte sont esséniens ou pas. Il y a des manuscrits qui pourraient parler de résurrection, mais encore faudrait-il qu'on soit sûr qu'ils soient esséniens.
Alors, Jean-Baptiste Imbert, je vais vous poser la question, mais que viennent faire les Esséniens à Qumran? Qu'est-ce qui a fait le lien entre Qumran et les Esséniens? Oui, je vous pose ça parce que je crois que ça vient du Père Devaux.
Oui, non, mais...
c'est Dupont-Sommaire.
Je voudrais ajouter un petit mot à ce qu'il a dit, parce que l'archéologue, elle a regardé le site une nouvelle fois. On n'oublie pas qu'à côté du site de Qumran, il y a le grand cimetière de 1200 tombes. Alors je dis toujours, il faudrait savoir pourquoi les gens enterrent leurs défunts et comment ils les enterrent. Le funéraire est quand même un dossier extrêmement important. Or, on ne peut pas nier qu'à Qumran, le cimetière est très bien organisé, les tombes sont assez particulières, un puits, ensuite un loculus, un petit logement de côté, couvert avec des pierres ou des tuiles pour éviter que le remplissage de la tombe n'endommage le corps. Donc, il y a là un respect du corps qui peut-être nous pointe du doigt qu'il y a une croyance de l'au-delà. Donc j'y crois très fort. Pour revenir à votre autre question, c'est un grand débat. C'est difficile puisque, tout le monde dit les Esséniens à Qumran. En fait, personne n'a jamais pu le prouver, étant donné que les manuscrits ne disent pas nous sommes les Esséniens et ensuite nous étions
à Qumran.
Oui, c'est ça. Donc, et là,
ils n'ont pas laissé carte de visite.
Ni carte de visite, ni pancarte sur le site. Donc c'est quand même un peu difficile.
Et dans les graffitis, il y a rien.
Oui, c'est difficile à affirmer. Moi, je dis que c'est la plus grande probabilité parce que c'est quand même une secte qui était présente autour de la Mer Morte. Les sources historiques le disent explicitement. Et on n'a pas de raison d'imaginer vraiment d'autres sectes, moi j'accepte le mot, d'autres sectes juives dans la région. Donc à mon avis, c'est essénien, mais je me bats pour contrer la grande intuition de Soukenik, de Dupont-Sommaire, du Père Devaux, de Milik, tous ces gens-là étaient persuadés qu'il y avait une espèce de communauté à Qumran. Une communauté nombreuse, organisée, et qui
vivait... Style communauté monastique.
Oui, qui vivait, c'est ce que j'allais dire, selon les règles que Michael a rappelées, une espèce de proto-monachisme. Alors ça, c'est tellement beau comme idée que ça marche très très bien. Or, en fait, le site montre qu'on ne peut pas avoir une grande communauté à Qumran. Il n'y a pas la place, il n'y a pas les dégagements. Donc, moi, je trouve une autre formule. Je voudrais, je milite, je voudrais qu'on reprenne la thèse essénienne à Qumran, mais sous une autre forme, et non pas sous la forme communautaire.
Donc renouveler la thèse essénienne, c'est les travaux actuels en archéologie sur le site de Qumran ?
Ben, au moins ce que j'essaye de faire, oui, j'essaye de faire et que je ne veux imposer à personne.
Est-ce qu'on est sûr qu'il y a un lien entre la bibliothèque et les gens qui ont vécu sur le site ?
Il n'y a pas de bibliothèque.
Vous chipotez un peu là, hein. Entre les manuscrits et les gens qui ont vécu sur le site.
Mais non, parce que je crois que les manuscrits ne viennent pas du site.
Comment ça ?
Mais non, parce qu'on vient de dire que les Esséniens sont partout en Judée. Donc, à mon avis, la collection des manuscrits de Qumran retrouvés dans les grottes est la collecte des manuscrits, des trésors religieux et intellectuels de ces communautés que, dans un temps de menace, ils ont protégés à Qumran. Bon, Qumran, si c'est essénien, avait aussi, ou même si ce n'est pas essénien, Qumran, par les graffitis dont j'ai parlé, montre qu'ils savaient écrire. Donc, ils avaient eux-mêmes quelques rouleaux, mais pas beaucoup. Donc, ils ont caché eux-mêmes leurs rouleaux dans une des grottes. Et le reste vient d'ailleurs.
Cette communauté pourrait être les gardiens de ces rouleaux.
Oui, en quelque sorte. Peut-être qu'on leur avait dit, vous jetez un œil sur visiteurs qui errent dans les falaises pour essayer de faire un peu d'ordre. Et ça a marché, puisque 2000 ans plus tard, on retrouve les manuscrits.
Mais on ne sait pas plus de choses sur ce qui se passait entre les rouleaux et les gens sur place.
Non, ce qui est assez sûr, c'est que ces jarres très spéciales, au-delà de leur morphologie dont j'ai parlé, qui est si unique, elles sont quand même spécifiques du site de Qumran. Il y en a dans les grottes, mais il y en a sur le site, et il y en a sur le site dans les couches assez anciennes de l'occupation, et non pas seulement au moment de la dispersion. Donc c'est un outil que les gens de Qumran manipulaient depuis longtemps.
Je pense qu'on peut également ajouter la présence peut-être d'encriers sur le site qui montre que les gens savaient écrire. Et puis également le fait que sur le site, on a découvert des inscriptions. On inscrit sur de la céramique par exemple, mais écrites comme on écrit sur un manuscrit et pas comme on écrit d'habitude sur de la céramique. En général, c'est deux types d'écriture assez différentes. Et donc là, on a l'impression que ça donne, c'est que c'est un scribe qui a l'habitude d'écrire sur des manuscrits qui, pour une fois, a écrit sur la céramique. Donc ça, c'est des petits points de contact qu'on a entre le site archéologique lui-même et puis les grottes qui sont à quelques dizaines de mètres.
Alors je voulais revenir sur l'intervention de Michel tout à l'heure. On l'a dit, il y a beaucoup de fantasmes sur les manuscrits de Qumran. Il y a aussi beaucoup de fantasmes sur le temps de la publication. Ça a mis beaucoup de temps avant qu'on sache qu'il y avait dans ces manuscrits. Alors, à quoi c'est dû ? On entend des choses, il y a des intérêts politiques du côté israélien, du côté palestinien, et puis on voit aussi les fantasmes, est-ce que le Vatican aurait pas à voir là-dedans ? Est-ce que vous pouvez mettre les choses au clair ? Alors peut-être d'abord sur les intérêts politiques israéliens-palestiniens. Parce qu'il faut se rappeler, on a découvert les manuscrits de Qumran au moment de la naissance de l'État d'Israël.
C'est une question douloureuse.
Oui, bah oui.
Question douloureuse parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui que nous sommes en plein dilemme. C'est-à-dire que même la Bibliothèque nationale qui fait son exposition marque Qumran Israël. Or aujourd'hui, les hommes de loi, les gens qui cherchent, s'aperçoivent que d'après les documents, les factures, les lettres, et les documents d'acquisition, rien n'appartient à Israël. Donc nous sommes ici sur une espèce de balance ou de balançoire, si vous voulez, très difficile d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre. Et effectivement, le problème est la question du patrimoine. Israël dit, bon, effectivement, tout cela a été trouvé, non pas sur le territoire d'Israël, ça a été acquis plus ou moins légalement et plutôt illégalement. Donc, effectivement, mais faut-il prouver que les manuscrits de Qumran ne sont pas le patrimoine d'Israël ? Eh bien, les autres disent, effectivement, prouvez-le, et vous ne pourrez pas le prouver.
Alors oui, effectivement, la question de la revendication des manuscrits, pour peut-être certains auditeurs qui ne sont pas bien au courant de la question, Qumran, on l'a dit, c'est au bord de la mer Morte, c'est l'extrémité nord-ouest de la mer Morte, et c'est vrai que la région était sous mandat britannique, ensuite, à l'époque de la découverte, en 1947, ensuite, il y a eu la création de l'État d'Israël en 1948, mais cette région-là était en territoire jordanien, et le territoire ensuite ont été pris, il y a eu les guerres, et en particulier en 1967, la guerre des six jours, les Israéliens prennent Jérusalem, Jérusalem-Est. Les Jordaniens conservaient les manuscrits à Jérusalem-Est. Donc les manuscrits ont été rapatriés à Jérusalem-Ouest, où ils sont encore à l'heure actuelle. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, il y a trois entités politiques qui revendiquent les manuscrits. Il y a les Israéliens qui les conservent actuellement à Jérusalem. D'une part, les Jordaniens qui disent, mais attendez, le site de Qumran, durant les fouilles, durant les années de fouilles, les années de découverte des manuscrits...
La fouille a été jordanienne.
Était jordanienne, absolument. Donc en disant, c'était jordanien. Et puis les Palestiniens qui disent, dans la perspective de la création d'un État palestinien, Qumran sera en territoire palestinien. Donc nous demandons à ce que les manuscrits soient rapportés à l'autorité palestinienne. Donc on a effectivement cet imbroglio politique. Mais c'est pas forcément ça qui a été le plus... Enfin, ça a été effectivement un facteur qui a compliqué la publication des manuscrits. Mais je crois que la difficulté première, et c'est vrai, Jean-Baptiste le rappelait tout à l'heure, c'est que quand on a découvert les manuscrits, ils étaient en fragments, ils étaient en lambeaux. Il faut imaginer des dizaines de milliers de fragments, imaginer un puzzle immense. Et déjà, la première étape, ça a été de regrouper, de faire des tas, de regrouper les manuscrits, les fragments par manuscrit. Donc, c'est-à-dire qu'on va regarder l'écriture. C'est-à-dire, imaginez, vous écrivez sur une feuille de papier, j'écris sur une feuille de papier, on fait des miettes chacun de nos feuilles, on mélange les deux feuilles, et puis on demande à une troisième personne de séparer les deux tas. Il va regarder, il va comparer, vous n'écrivez pas de la même manière que j'écris, donc on doit pouvoir distinguer les deux, donc on doit comme ça pouvoir faire des tas. Mais imaginez, d'abord, on n'avait pas l'habitude de travailler sur des manuscrits hébreux de cette époque-là. Donc il a fallu que les épigraphistes
se forment,
apprennent à distinguer en disant tiens, tel scribe écrit telle lettre de telle façon alors que tel autre écrit telle autre façon. Donc il a fallu comme ça faire des tas. Ça a pris des années et des années. Ensuite, une fois qu'on a plus ou moins réussi à rassembler ces petits fragments par manuscrit, il faut essayer de les agencer, les ordonner. Est-ce qu'on va faire des joints? Tiens, ceux-là, ils se collent, ceux-là, ils ne se collent pas. Identifier quand on a deux mots, trois
mots.
Donc
en fait, c'est juste des questions techniques qui ont retardé la publication.
Très technique, c'est un travail phénoménal d'identifier, de dire tiens, est-ce que c'est un manuscrit d'un livre de la Bible? Est-ce que c'est un manuscrit d'un autre livre? Et puis ensuite, on commence à publier. Et ça, évidemment, il faut imaginer le travail phénoménal que ça représente. C'est évidemment des dizaines d'années de travail. Alors oui, effectivement, à un moment donné, du fait des complications politiques, le travail a été mis en pause. On a dit on va attendre de voir un petit peu comment les choses vont évoluer avant de finir le travail. Et puis, donc ça, on a perdu un peu de temps à ce niveau-là également. Et puis après ça, on a pu, dans les années 90 et 2000, reprendre le travail avec, en étoffant l'équipe.
Hein,
on a
technologie amusée.
Absolument, il y a eu des technologies informatiques. On a rajouté des dizaines de personnes sur l'équipe pour arriver à tout publier. Et puis là, ça y est, le dernier volume de texte inédit a été publié tout récemment. Donc on peut dire, évidemment, ça a pris 60 ans, mais j'allais dire, il y a des projets qui prennent davantage de temps. Au Caire, on a découvert des manuscrits d'époque médiévale dans une pièce derrière une synagogue, et on les a découverts au tournant du XXe siècle, et là, même un peu avant, on n'a toujours pas fini de les publier, et on en a publié un pourcentage, même pas la moitié, donc il reste encore énormément de travail. Donc, si on compare avec d'autres projets de publication de manuscrits, 60 ans pour publier l'intégralité des manuscrits de la Mer Morte, c'est pas si énorme que ça en fait.
Et c'est le temps de le dire que vous écoutez Retour à Qumran avec Jean-Baptiste Imbert et Michael Langlois. Nous parlons de ce site de Qumran et ce qu'il nous dit des origines du christianisme et du judaïsme. Vous pouvez participer à l'émission en nous appelant au 04 72 38 20 23. 04 72 38 20 23. Qu'est-ce que ça nous dit de ces juifs du tournant de notre ère, Michael Langlois, et de ce monde juif lequel a vécu le Christ?
Oui, hein, absolument. Là, on est dans le judaïsme, ce qu'on appelle le judaïsme de l'époque du Second Temple, c'est-à-dire avant la destruction du Temple de Jérusalem en 70 de notre ère. Donc c'est le judaïsme du tournant de notre ère, le judaïsme contemporain de la naissance du christianisme. Alors, ce judaïsme, eh bien, c'est vrai que grâce à Qumran, on se rend compte, et on le soupçonnait peut-être déjà, mais on ne l'avait peut-être pas suffisamment dit, que le judaïsme, il est polymorphe. Il n'est pas unique, il n'est pas figé. Il n'y a pas une seule branche du judaïsme. Il y a en fait tout un certain nombre de branches. Et quand on regarde les manuscrits de la Mer Morte, on a même du mal parfois à voir une cohérence d'ensemble. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'on va avoir différents mouvements, différents courants de pensée. On va avoir des textes de sagesse, mais en même temps, on va avoir des textes apocalyptiques, des textes eschatologiques, donc qui se portent vers la fin des temps, ou des textes qui transmettent des révélations de Dieu. Donc on a des révélations sur les origines, on a un imbroglio de toute cette littérature. On parlait tout à l'heure d'astrologie, on a des textes astrologiques, on a même des textes d'exorcisme. l'exorcisme. Donc on a d'un seul coup, j'allais dire pratiquement tous les genres littéraires auxquels vous pouvez penser, eh bien on va les retrouver. Et tout ce type de littérature, il existe déjà, il y a un foisonnement littéraire, il y a un bain culturel absolument fabuleux à cette époque.
Et ça, on ne le savait pas avant Qumran ?
On pouvait le soupçonner. Comme je disais tout à l'heure, Flavius Joseph nous disait, eh bien voilà, il y a trois grandes branches dans le judaïsme. Donc on savait déjà que le judaïsme n'était pas uniforme. On savait qu'il y avait différentes tendances. Et dans une certaine mesure, on savait que le christianisme était né comme une de ces branches du judaïsme avant de s'émanciper. Et donc on le soupçonnait, mais on n'avait pas de documentation. On avait des textes qu'on avait même du mal à dater, des textes de la littérature juive ancienne. Bien, on se posait la question de savoir mais de quand ces textes datent-ils. Je vous donne un exemple, ça va être peut-être plus clair. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler sur le livre d'Enoch. Alors, Enoch, c'est un personnage qui est mentionné dans la Bible, mais quelques versets seulement, donc il est totalement inconnu. Simplement, il réapparaît dans le Nouveau Testament, par exemple. Jude, dans son épître, le cite, et on se dit, tiens, il avait écrit un livre. Mais ce livre était perdu. On avait des citations, mais on n'avait plus le livre. On a été le récupérer en Éthiopie, au 18e siècle de notre ère. On est allé chercher en Éthiopie des manuscrits du livre d'Enoch. Mais c'était des versions, c'était une version éthiopienne, pas le texte original. Et il a fallu attendre la découverte des manuscrits de la Mer Morte pour découvrir des manuscrits du livre d'Enoch. Et ça nous a aidé à le dater, parce que entre des manuscrits éthiopiens du 18e siècle de notre ère, oui, et des manuscrits de Qumran qui pour certains datent du 2e siècle avant notre ère, ça nous donne la confirmation que le livre d'Enoch, par exemple, avait été rédigé avant, parce qu'on a des manuscrits déjà au 2e siècle avant notre ère, et ce sont pas les manuscrits originaux, c'est des copies. Donc ça veut dire que le texte lui-même devait dater du 3e, peut-être du 4e siècle avant notre ère. Et donc or le livre d'Enoch nous parle de tout un tas de choses qui sont en développement à l'époque. Il nous révèle la chute des anges, vous savez, les fameux anges déchus qui viennent sur terre, qui prennent les femmes. On a les noms des chefs des anges déchus, donc on a tous ces détails là et on sait que ces choses là existaient. C'est cette littérature là maintenant, on a la preuve qu'elle existait plusieurs siècles avant même la naissance du christianisme.
Et qu'est-ce que... Jean-Baptiste Imbert ?
Oui, non, je voudrais faire une petite remarque, peut-être qui serait comme un portail à cette question. À force de réfléchir à cette période-là, au judaïsme finissant, au christianisme naissant, je crois qu'on pourrait présenter les choses comme cela. Moi, je récuse complètement cette espèce de conception de ces religions comme des tiroirs indépendants les uns des autres. Tout est complètement mélangé. Oui. Et on me dit parfois, oui, le judaïsme est antérieur au christianisme. Et alors, moi, je dis non.
Comment ça ?
Je dis non, parce que le christianisme est une branche du judaïsme. Donc, lorsque le judaïsme hellénistique s'achève avec la destruction du temple, donc on va passer à un autre judaïsme, le judaïsme rabbinique.
Qui est postérieur au christianisme, c'est ça ?
Non, pas du tout. Le christianisme et le judaïsme rabbinique naissent en même temps, dans le même berceau. Ils ont les mêmes antécédents.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a une évolution, il y a une continuité. Il faut effectivement, comme le disait Jean-Baptiste, il ne faut pas s'imaginer qu'il y a des gens qui ne se parlent pas, qui ne communiquent pas, que les religions naissent d'un seul coup, qu'elles meurent d'un seul coup, qu'elles évoluent. En histoire, on fixe des dates. On dit de telle à telle période, il se passe ceci. Il faut bien s'imaginer que les gens ne se réveillent pas le matin en disant, tiens, ça y est, maintenant, une nouvelle ère commence. Nous, on voit bien, il y a une continuité. Et effectivement, il y a des traditions qui évoluent. Et ces traditions, elles sont véhiculées. Et ce que les manuscrits de la Mer Morte nous apprennent, ou en tout cas nous confirment, c'est effectivement que toute cette littérature, elle voyage, elle circule, on l'échange. Et donc, on est au courant, on connaît ces choses-là. Et on en discute. Et effectivement, dans tous les milieux juifs, eh bien voilà, on vient dialoguer. Et les premiers chrétiens sont des juifs, effectivement, qui ont une spécificité, qui vont s'attacher à un maître, Jésus de Nazareth. Et c'est partant de là que cette branche va se développer, puis s'émanciper avec le temps. Mais effectivement, on est dans un même milieu culturel ambiant.
On ne peut pas nier que les premiers chrétiens étaient des juifs. C'est un monde juif, c'est une dissidence juive de plus, comme il y en a eu beaucoup, comme il y a eu avec les Esséniens.
C'est petit à petit qu'ils se sont réalisés chrétiens, c'est ça ?
Alors on voit,
ils se sont détachés au quoi, 3e, 4e, 5e siècle.
Alors voilà,
avec un judéo-christianisme qui a duré des siècles.
La question se pose, les premiers chrétiens, évidemment, sont tous des juifs, puisque j'allais dire, Jésus de Nazareth se présente simplement comme étant le Messie qui est attendu par les juifs. Et donc, il y a les juifs qui croient que c'est vrai, effectivement, que ce Jésus de Nazareth est bien le Messie attendu, et ceux qui n'y croient pas. Donc, les premiers disciples de Jésus de Nazareth, ce sont des juifs. Et la question se pose quand, la première fois qu'il y a des non-juifs qui veulent devenir disciples de Jésus. Et on se pose la question, dans le livre des Actes, dans le Nouveau Testament, au chapitre 15, il y a le fameux concile de Jérusalem, et on se pose la question, que faire de ces gens qui ne sont pas juifs et qui veulent suivre Jésus? Est-ce qu'il faut d'abord qu'ils deviennent juifs?
Ils n'étaient pas dans la filière.
Voilà, c'est ça. Alors, est-ce qu'on leur demande d'être juifs? Est-ce qu'ils vont devoir se faire circoncire, observer les préceptes de la loi, etc.? Ça, c'est des questions. Et alors, on en discute, on ne sait pas trop quoi faire de ces gens-là, parce que jusqu'alors, bien sûr, on est tous juifs. Donc,
si Qumran, c'est, vous nous l'avez dit, entre moins...
Moins 50 plus 50,
grosso modo, il pourrait y avoir ces premiers chrétiens qui auraient pu passer par là, c'est ça?
D'où l'équivoque, justement. Beaucoup d'auteurs ont dit, le christianisme est né à Qumran.
C'est ça qui est fabuleux, c'est que le site de Qumran et les manuscrits de la Mer Morte sont contemporains de Jésus. Donc forcément, on se dit, le site de Qumran est assez bien situé. Si on part de Jérusalem, qu'on va à l'est, on tombe sur Qumran.
Une journée de marche.
Oui, si on descend de Jéricho...
Oui.
Si on descend de Jéricho en direction de la Mer Morte, on tombe sur Qumran. Donc, les gens circulent. Il n'est pas impossible que, effectivement, les premiers chrétiens, que Jésus ait connu le site de Qumran. Quand les premiers chrétiens aient lu les manuscrits de la Mer Morte, oui, ça c'est sûr. Je vous parlais tout à l'heure du livre d'Enoch. L'auteur de l'épître de Jude, dans le Nouveau Testament, cite le livre d'Enoch. C'est-à-dire qu'il le connaissait. Et il le cite, il dit « Ainsi a prophétisé Enoch », comme il aurait dit « Ainsi a prophétisé Jérémie ». Enfin, il le cite et il suppose que ses lecteurs connaissent également le livre d'Enoch. Donc ça veut dire qu'il y a toute une littérature que l'on découvre à Qumran, pour la première fois en tout cas dans sa langue originale, qui était connue des premières communautés chrétiennes.
Et alors, est-ce que le site de Qumran et les manuscrits de Qumran nous disent des choses sur la vie quotidienne des hommes à cette époque, sur leurs croyances, sur le...
Bon, on peut prendre un exemple dans les manuscrits de la Mer Morte, et ça a été repris justement pour faire le parallèle avec le christianisme, c'est la question du baptême. Alors, le mot baptême, c'est un mot qui vient du grec, baptizo, donc c'est pas un terme qui est employé à l'époque. À l'époque, on parle hébreu ou araméen, mais pas grec. Mais le mot baptême, c'est un mot qui veut dire immersion. Donc, on plonge les gens. Or, la pratique du baptême était connue à l'époque dans le sens où il y avait des ablutions rituelles, il y avait des bains. Et on parle de mikvé, le bain rituel en hébreu, c'est le mikvé. Et on sait très bien qu'à l'époque, au premier siècle de notre ère, dans un certain nombre de communautés juives, on pratique ce bain rituel qui a une signification de purification. De la même manière que je vais me laver, que je vais prendre un bain pour laver mon corps de ses souillures physiques, eh bien, je vais faire le même geste d'un point de vue symbolique pour laver mon cœur des souillures morales. Et donc, cette pratique, elle est attestée. Or, on voit dans les évangiles, Jean le Baptiste, justement, on l'appelle Jean le Baptiste parce qu'il baptise, les gens viennent à lui et il lui dit « repentez-vous », donc changez de comportement, et il les baptise, il les immerge, il les plonge dans le Jourdain, et ça, c'est une pratique qui était attestée. Quand il a voulu faire ça, les gens ne l'ont pas regardé bizarrement, les juifs ne l'ont pas dit « mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi cette histoire de se plonger? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ?» Les gens connaissaient parfaitement cette pratique.
Et Jean-Baptiste Imbert, sur le site de Qumran?
Oui, tout à fait.
On trouve des bassins, c'est ça?
On trouve des bassins. On a quand même un peu de mal à croire que tous ces bassins étaient destinés à faire trempette deux fois par jour. Mais certainement qu'il y a au moins deux mikvés, comme on dit, deux bains rituels, à proximité des accès pour que les gens rentrant des champs ou ayant voyagé se purifient avant d'entrer dans l'établissement.
Alors, j'ai lu aussi que dans les manuscrits de Qumran, on parlait d'un maître de justice.
Oui, absolument. Alors ça, c'est un personnage un petit peu énigmatique, très mystérieux. Dans certains manuscrits de la Mer Morte, on nous parle effectivement d'un groupe de juifs qui est conduit, dirigé par ce maître cet enseignant juste ou ce maître de justice. Il y a plusieurs traductions possibles de cette expression hébraïque. Eh bien, d'après les informations qu'on a pu récolter, il semblerait que il se soit éloigné du pouvoir en place à Jérusalem, qu'il soit parti ou qu'il ait été chassé et qu'un certain nombre de gens l'aient suivi, des disciples disons. Et effectivement, alors on nous dit qu'il est parti en direction du désert pour s'établir là-bas et justement c'est pour ça aussi qu'on a fait le lien avec le site archéologique, puisqu'on se dit tiens, mais finalement à Qumran on est dans une région désertique, est-ce que c'est pas là que lui et ses disciples se seraient installés? Et ensuite dans ces manuscrits on nous explique l'imminence de la fin des temps et le fait que ce maître de justice est là pour conduire. Il a, c'est une figure messianique, si vous voulez. C'est le sauveur, c'est celui qui, est, qui a été oint par Dieu, choisi par Dieu qui, pour révéler la vérité, pour dénoncer l'injustice et rétablir la justice sur la terre d'Israël.
Alors justement, il y a une question de Chantal qui était à Lyon qui demande si l'on peut évoquer la personne de Jean-Baptiste. Y a-t-il quelque chose sur lui dans les manuscrits de Qumran ?
Alors non, il n'y a pas de mention de Jean-Baptiste, il n'y a pas de mention de Jésus, il n'y a pas de mention de Jacques, il n'y a aucune mention de personnages du christianisme ancien dans les manuscrits de la Mer Morte. On a fait des parallèles, je parlais tout à l'heure de la question du baptême, Jean le Baptiste est à l'écart dans le désert, Jean le Baptiste baptise les gens, donc on voit un certain nombre de similitudes. En même temps, il y a également des différences, c'est que Jean-Baptiste il vit tout seul et on n'a pas non plus cette image de fréquentation d'un établissement communautaire ou d'une vie essénienne. Donc j'allais dire il y a des parallèles, mais il y a également des différences. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on peut pas dire que le christianisme découle du mouvement essénien ou même de la communauté décrite dans les manuscrits de la Mer Morte, mais on peut dire que ce sont des proches parents, on peut dire qu'ils ont tous les deux baigné dans le même bain culturel. D'où ces nombreuses ressemblances. On se pose les mêmes questions, on a les mêmes préoccupations, on attend la venue du Messie qui doit délivrer, qui doit ramener la justice. Donc il y a ces mêmes préoccupations et parfois, quand on se pose les mêmes questions, on arrive aux mêmes réponses.
Alors vous avez utilisé le terme Messie, c'est quelque chose le terme a été enrichi grâce à l'apport de Qumran. Avant, c'est quelque chose qu'on avait peu de sources, c'est ça ?
Alors oui, la question du Messie, ça a été abondamment étudié par de nombreux spécialistes, y compris André Dupont-Sommer, qui était professeur au Collège de France et qui a mis sur pied cette théorie essénienne qu'il a développée. André Caco également. Enfin, il y a une longue tradition d'études de l'essénisme, du messianisme en rapport avec l'essénisme. Alors, le Messie, d'abord la définition, le mot Messie, ça vient d'un mot hébreu qui veut dire « oint ». Quelqu'un sur qui on a versé de l'huile. Et le geste de verser de l'huile, c'est un geste d'autorité. On se retrouve revêtu, on est revêtu d'une autorité divine. Et alors le Messie peut avoir une autorité soit de type politique, un roi par exemple, ça peut être une autorité de type religieuse, comme un prêtre ou un prophète, quelqu'un qui est un porte-parole de Dieu. Et cette notion de Messie, donc de quelqu'un qui est choisi par Dieu pour avoir une autorité, elle se développe. Et on savait déjà par les sources que au tournant de notre ère, il y a une attente messianique, notamment parce que à l'époque, Israël est occupé par les Romains, et on sait qu'il y a un certain nombre de Juifs qui sont contre cette occupation romaine et qui souhaitent la délivrance. Déjà à l'époque de la révolte des Maccabées, donc à l'époque hellénistique, quand c'était les Grecs qui étaient au pouvoir en Israël, eh bien il y avait déjà eu des tentatives d'émancipation, des rois asmonéens qui avaient essayé de se libérer du joug hellénistique, et bon, finalement, ça n'a pas marché. Et là, on est à l'époque romaine. Et c'est pareil, les Romains sont en place. D'ailleurs, il y a un épisode célèbre dans l'Évangile où des Juifs apportent une pièce de monnaie à Jésus en disant « Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut payer l'impôt ?» Parce que payer l'impôt romain, payer l'impôt à César, c'est quelque part reconnaître leur autorité. Et ils voulaient savoir si Jésus allait dire « Non, il faut prendre les armes, se révolter » ou si au contraire, il faut payer l'impôt. Donc ça, c'était des préoccupations qui étaient, j'allais dire, dans la tête de tous les Juifs de la Judée à l'époque.
Et depuis des années.
Et depuis un certain temps, oui.
Au standard de RCF, au 04 72 38 20 23, Jacqueline. Bonjour Jacqueline.
Oui, bonjour.
Vous êtes à Brive-la-Gaillarde.
Oui, exact.
Alors Jacqueline, il faut que vous coupiez votre radio derrière vous, s'il vous plaît, sinon ça fait un écho et c'est très désagréable. Allez-y, on vous attend.
Je la coupe. Voilà. Voilà. Alors, je voulais juste demander des précisions concernant le personnage d'Enoch, que je retrouve, je sais pas, depuis un an, je retrouve ce nom, et ça commence à m'intriguer, parce que je me demande, qui est-il ? Est-ce que c'est vrai que ça veut dire le premier homme ? Je sais pas si quelqu'un parle, connaît la traduction, j'ai entendu dire j'ai lu dans un ouvrage que ça voulait dire le premier homme.
Alors Jacqueline, vous avez beaucoup de chance parce que Jean-Baptiste, Michael Langlois, je crois que vous avez fait votre thèse sur Enoch.
Oui, absolument, oui.
Donc il va vous donner des précisions. Hein.
Oui, absolument. Et j'allais dire pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur les traditions liées à Enoch, je vous invite effectivement à vous procurer mon livre, le premier manuscrit du livre d'Enoch. Le premier chapitre est un chapitre d'introduction et effectivement on explique la fortune qu'a connue ce personnage. Alors, pour essayer de faire très bref, Enoch, c'est quelqu'un qu'on trouve dans la Bible, dans la Genèse au chapitre 5. Des versets 22 à 25, on a une mention et on a la liste de tous les patriarches depuis Adam jusqu'à Noé. Enoch est en 7e position. Donc déjà, c'est pas le premier, il est en 7e position.
7e, c'est pas n'importe quelle position.
C'est pas non plus n'importe quelle, 7e, n'importe quelle position, surtout que dans le chapitre précédent, on retrouve son homonyme et pourquoi pas ce même personnage sous un autre nom, qui est à une autre position. Donc on pense que le fait de l'avoir placé en 7e position, ça n'est pas anodin. Et d'ailleurs, c'est relevé dans l'épître de Jude, quand on a la citation, on dit « Ainsi a profité Enoch, le 7e depuis Adam ». 7 est un chiffre important. Et donc, on a ce personnage d'Enoch, c'est le père de Mathusalem, qui est le plus ancien, le plus âgé, j'allais dire celui qui a vécu le plus longtemps parmi tous les patriarches entre Adam et Noé. Et donc, Enoch diffère des autres patriarches entre Adam et Noé parce que, d'abord, eux, ils vivent pratiquement tous très vieux, 700, 800, 900 ans. Or, lui, sa vie s'arrête au bout de 365 ans, ce qui est jeune par rapport aux autres. Pour nous, ça nous paraît un peu énorme, mais surtout 365, c'est le nombre de jours dans une année solaire. Donc on se dit, ah ah, c'est pas un hasard non plus. Vous voyez, tous les chiffres ont une importance. Et de la même manière, alors que pour les autres, on dit, eh bien voilà, on parle de leur mort, pour Enoch, il n'est pas tout à fait allusion à sa mort. On dit, il ne fut plus car Dieu le prit. Alors, Dieu le prit, qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, on peut le comprendre en disant, Dieu l'a repris, c'est-à-dire, il l'a fait mourir. Mais ça veut dire que Dieu l'aurait fait mourir intentionnellement. Alors, du coup, les rabbins, dans la littérature rabbinique, les rabbins discutent en disant, oui, il était mauvais, ou alors, il était lunatique. Certains jours, il était bon, d'autres jours, il était mauvais. Alors, Dieu a profité d'un jour où il était bon pour le reprendre. Et puis, il y a d'autres sources juives qui nous indiquent que non, Dieu l'a repris, il faut le comprendre. Quand on dit que Dieu l'a pris, ça veut dire que Dieu l'a fait monter au ciel sans connaître la mort. Et c'est ça qui est intéressant par rapport à ce personnage. On a quelqu'un qui a entretenu avec Dieu des rapports particuliers. On dit qu'il a marché avec Dieu. Et ça, c'est pareil, on ne le dit pas des autres patriarches entre Adam et Noé. Donc on dit il a une sorte d'intimité avec Dieu. Il est monté au ciel sans connaître la mort. Il aurait reçu des révélations. Et ces révélations, il les a transmises sous la forme d'un livre qui nous a été préservé aujourd'hui, le livre d'Enoch. En fait, il y en a même plusieurs. Il y a le deuxième, le troisième livre d'Enoch. Celui dont on parle aujourd'hui, c'est le premier livre d'Enoch. Et du coup, cette position particulière d'Enoch qui serait montée au ciel lui a permis d'avoir des révélations, notamment sur les anges, sur la fin des temps, sur tout un tas de choses.
Voilà, et un exemplaire du livre d'Enoch a été retrouvé à Qumran.
On a retrouvé une douzaine d'exemplaires.
Une douzaine
d'exemplaires. C'est un livre très populaire à Qumran. Ça nous a surpris également. Le fait qu'il y ait le livre d'Enoch, d'accord, mais aussi populaire, c'est assez impressionnant. C'était un best-seller, de toute évidence.
Bon, j'espère que ça aurait éclairé un petit peu Jacqueline. On va écouter le groupe Théos. Vous nous appelez au 04 72 38 20 23 ou par mail, le temps de le dire, à tercef.fr. Et aujourd'hui, c'est Qumran, hein, les manuscrits et le site de Qumran. Au sommaire de cette émission, le temps de le dire, toujours avec Jean-Baptiste Imbert, archéologue, responsable du département d'archéologie de l'École biblique de Jérusalem, et puis Michael Langlois, spécialiste des littératures hébraïques et araméennes et conseiller scientifique de l'exposition Qumran à la Bibliothèque nationale de France. Jacqueline posait une question tout à l'heure sur Enoch, et en fait, elle confondait avec un autre personnage, c'est ça,
oui,
Michael Langlois ?
Oui, Jacqueline disait que c'était le premier homme. En fait, je pense qu'elle confondait avec Enoch, et c'est vrai que Enoch, on peut prononcer de la même manière, et Enoch qui veut dire homme, effectivement, alors que Enoch, en fait, il faudrait prononcer Hanor, si on prononçait bien, j'allais dire, à l'israélienne moderne. En fait, ça veut dire que c'est le verbe qui découle, c'est le même verbe dont on a Hanouka, vous savez, la fête de Hanouka, etc., c'est la fête de la dédicace. Donc c'est quelqu'un peut-être qui est consacré ou quelqu'un qui est établi, c'est ça la signification de son nom. Demander la signification du nom Enoch, en fait, ce serait plutôt ça, la signification du nom Enoch.
Et Enoch, ce serait le premier homme, c'est un autre patriarche.
Enoch, ça veut dire homme, effectivement, et alors on a pour le premier homme, on a Adam d'un côté, Adam ça veut dire être humain, et puis Enoch qui veut dire homme de l'autre. Donc effectivement, c'est deux candidats possibles pour être le premier homme.
Voilà. Bon, voilà, la précision est faite. Michael Langlois, pour continuer un peu sur notre discussion, qu'est-ce que Qumran, qu'est-ce que les manuscrits de Qumran nous apprennent de la Bible, en quoi ça a changé les études bibliques?
Alors, je pense qu'il y a il y a deux choses qu'on peut souligner. Il y a d'une part la question de la composition de la Bible, les livres qui doivent ou non figurer dans la Bible, ça c'est une première question. Et puis la deuxième question, c'est la fiabilité du texte biblique, ou c'est-à-dire les différences qui peuvent exister entre les plus anciens manuscrits de la Bible. Donc ça, c'est à peu près les deux choses que les manuscrits de la Mer Morte nous ont apprises.
Alors, on va détailler un peu hein, sur la composition de la Bible. À Qumran, on trouve un certain nombre de livres.
Oui. Alors, c'est-à-dire, effectivement, à Qumran, on est à une époque où la Bible n'existe pas en tant que telle. C'est-à-dire, aujourd'hui, on dit la Bible, c'est du singulier, c'est pas du pluriel. Il y a plusieurs livres à l'intérieur, il y a un sommaire, une table des matières. Cela dit, si vous comparez les différentes Bibles des différentes églises chrétiennes, par exemple, il n'y a pas toujours les mêmes livres dedans. Et c'est vrai que l'église catholique romaine n'a pas la même Bible que l'église orthodoxe éthiopienne. Donc, ce qui fait qu'on peut se poser la question de dire, mais quels sont les livres qui doivent ou non figurer dans la Bible. Et la même question se pose pour la Bible hébraïque, c'est-à-dire dans le judaïsme, à l'heure actuelle, il y a une liste et un ordre de livres. Est-ce que cette liste et cet ordre étaient connus déjà à Qumran ? La réponse est non. La réponse est, à l'époque des manuscrits de la Mer Morte, on n'a pas encore fait ce travail de rassemblement des livres de la Bible. On a peut-être commencé, effectivement, on a des traces du fait qu'on aurait pu d'abord regrouper les cinq premiers livres de la Bible, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Pentateuque, la loi de Moïse. Cela, effectivement, semble déjà connu dans l'ordre dans lequel on les a à l'heure actuelle. De la même manière pour les 12 petits prophètes qu'on a dans la Bible hébraïque, eh bien, on a des manuscrits sur lesquels ils sont copiés bout à bout. On se rend compte qu'on les considère déjà comme un tout. Et ça a peut-être été le cas d'ailleurs bien plusieurs siècles avant Qumran. Mais en tout cas, là, on a la plus ancienne preuve que c'est le cas. Mais pour les autres livres, eh bien, on ne sait pas vraiment en fait quels sont les livres qui...
Est-ce qu'il y a des livres qui ont été mis de côté avec le temps et qui pourraient être changer la nature
C'est-à-dire, oui, des livres qui ont été mis de fait, absolument. Et dans les premiers siècles, durant les premiers siècles de notre ère, on fait ce travail de sélection. On en discute les rabbins d'un côté dans le judaïsme, les pères de l'église de l'autre dans le christianisme. On discute en disant est-ce que ce livre doit ou non faire partie de la Bible. Je reprends encore l'exemple du livre d'Enoch, puisqu'on en parle depuis tout à l'heure. Le livre d'Enoch, on en discute justement parce que d'un côté, dans le Nouveau Testament, il est cité. Jude, dans l'épître de Jude, Enoch est cité comme on citerait Isaïe, Jérémie ou n'importe quel autre prophète. Donc on dit de toute évidence, pour l'auteur de cette épître, eh bien, Enoch a une autorité. On le cite comme argument d'autorité. Donc certains pères de l'Église disent donc de fait, le livre d'Enoch doit être dans la Bible. Et d'autres qui disaient mais non, c'est pas possible, le livre d'Enoch doit pas être dans la Bible parce qu'il dit des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. Et d'ailleurs, certains disaient l'épître de Jude non plus ne devrait pas être dans la Bible puisque la preuve, Jude cite Enoch. Or, tout le monde sait bien qu'Enoch est pas dans la Bible, donc Jude non plus ne doit pas être dans la Bible. Donc on voit toutes ces discussions. Alors le résultat des courses, ça a été quoi? Ça a été que le livre d'Enoch a été abandonné dans tous les milieux juifs et chrétiens, sauf en Éthiopie, où l'église orthodoxe éthiopienne l'a gardé dans son canon. Donc c'est-à-dire aujourd'hui, vous allez en Éthiopie, vous demandez à un orthodoxe éthiopien d'ouvrir sa Bible, il va y avoir le livre d'Enoch dedans.
Et alors sur les différentes versions?
Alors, quand on a des manuscrits de la Bible, je prends l'exemple du livre de Jérémie, par exemple, qui est bien attesté à Qumran, eh bien, on met côte à côte les différents exemplaires. On a retrouvé plusieurs exemplaires du livre de Jérémie. Alors, ils sont tous fragmentaires, malheureusement. C'est rare, on l'a dit tout à l'heure, c'est rare d'avoir des manuscrits complets. On en a un pour le livre d'Isaïe, mais malheureusement, on n'en a pas pour le livre de Jérémie. Alors, quand on a des manuscrits du livre de Jérémie, on les met côte à côte, et là, on observe des différences entre ces manuscrits. Et alors, forcément, ça trouble, parce qu'on est habitué, là encore, nous, à l'heure actuelle, à avoir un texte qui est stable, qui est fixé, qui est définitif. Et ça veut dire qu'à l'époque, ça n'est pas encore le cas. À l'époque, le texte est encore vivant. On peut encore modifier le texte, on peut recopier différentes versions, si vous voulez, du livre de Jérémie.
Alors Jean-Baptiste Imbert, quand on entend les explications de Michael Langlois, il y a beaucoup de fantasmes autour de Qumran et on dit peut-être qu'on nous a caché des choses, peut-être que le Vatican aussi a intervenu pour pas qu'on sache tout. Comment vous écoutez ça?
Oh, il y a une pulsion dans l'être humain qui veut du mystère.
Et du complot partout.
Du fantastique. Bon, c'est tout à fait légitime. On fait de la bande dessinée, on fait du cinéma fantastique qui a beaucoup de succès. Bon, dans les religions, évidemment, les religions sont un lieu exceptionnel pour faire éclore le fantastique dont on a besoin.
Bon, vous faites de l'archéologie, c'est...
Oui, oui, oui. Non, mais on ne peut pas empêcher les gens de penser, donc ils ont raison. Et puis c'est le foisonnement de la pensée humaine, etc. Bon, on, quand même, de temps en temps, on est obligé de corriger et de d'émonder là, les branches qui se dispersent un peu partout.
Alors, quelle était l'attitude du Vatican par rapport au manuscrit du Coran ?
Moi, je n'ai aucune idée.
Vous n'avez aucune idée ?
Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que le fantasme est lié aussi au fait que le responsable des fouilles, Roland Devaux, était prêtre dominicain et forcément pour les laïcs on s'est dit mais c'est pas possible, il est subjectif, il est à la solde du Vatican, etc. Donc forcément on a voulu bâtir toute une théorie sur le fait que le Vatican donnait des ordres et demandait de cacher, peut-être même avait récupéré des manuscrits et que certains manuscrits seraient cachés au Vatican. Mais ça a été dit, mais
c'est-à-dire que je crois au moment où le père Devaux commence à paniquer, évidemment devant l'afflux du nombre de papillons de manuscrits qu'il fallait acheter, puisque c'était la machine qui était mise en route, d'acquérir à prix fort les manuscrits. La caisse a été vide et le père Devaux a dit à toutes les institutions qui s'intéressaient, s'il vous plaît, aidez-nous à acheter les manuscrits. Ensuite, ils ont été récupérés. Mais il me semble que peut-être le Vatican s'est dit, on aimerait aussi avoir quelques manuscrits. La bibliothèque vaticane, qui est une des plus belles bibliothèques au monde, pouvait s'intéresser à posséder quelques fragments de manuscrits. Je ne sais pas s'il y en a, je ne crois même pas.
Non, il n'y en a pas. Pas à ma connaissance, mais c'est vrai, comme le dit Jean-Baptiste, il y a eu un certain nombre de bibliothèques qui ont acheté des manuscrits. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a cette exposition à la Bibliothèque Nationale en ce moment. C'est que la Bibliothèque Nationale a été intéressée, elle a acheté dans les années 50 tout un lot de manuscrits pour 1 million de francs de l'époque, parce que le père Roland Devaux avait besoin d'argent pour financer les fouilles. Donc il y a eu effectivement des bibliothèques nationales, notamment la Bibliothèque Nationale de France, qui ont acquis des manuscrits, mais tout ça est très bien documenté, les manuscrits sont publiés, sont disponibles. À mon avis, s'il y a des manuscrits cachés quelque part, c'est dans des collections privées. C'est pas au Vatican, c'est plutôt des collectionneurs privés qui ont sur le marché des antiquités acheté et qui ont dans un coffre-fort quelque part des manuscrits.
Alors, Jean-Baptiste Imbert, dernier fantasme, en fait, la communauté de Qumran serait une communauté pré-chrétienne ou quelque chose comme ça, et vous faites bien la différence ?
Oui, quand on relit par exemple le texte sympathique des disciples de Jean-Baptiste qui viennent voir Jésus en lui disant « Es-tu celui qui doit venir ? Es-tu le Messie ?» Alors on peut très bien imaginer, on n'a pas de preuve, mais on peut très bien imaginer que ces gens-là étaient proches des Esséniens ou Esséniens, quelque chose comme ça, en disant « Mais on parle de toi avec beaucoup d'emphase, beaucoup de promesses, es-tu celui qui doit venir ?» Donc, on a là un tout petit un microcosme, une petite géographie où les gens pensent, espèrent, se battent, etc., etc. Et on a donc côte à côte des disciples de Jésus et des Esséniens. Alors, on a dit, mais l'un vient de l'autre, etc. Oh, pourquoi pas, on ne sait rien. Mais en tout cas, les différences sont trop considérables, trop fortes pour qu'on puisse les confondre.
Alors, ce qui m'apparaît,
c'est quand... Mais ça, Michael va nous l'expliquer très bien.
Non, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, alors. C'est vous qui...
Ce qui me frappe beaucoup dans les Esséniens, c'est ce monde juif complètement exacerbé par les rites de pureté, les prescriptions. Ces gens-là étaient vraiment obsédés par ces pratiques. Comme la voie du salut. Le salut passe par les pratiques. Or, le Jésus de l'histoire, si on lit l'évangile sous ce biais, il ne fait qu'une chose, c'est il nous dit débarrassez-vous de ces pratiques, échappez à la pression. Donc, nous avons là un antagonisme qui est radical, c'est-à-dire... moi, je dis une phrase un peu sévère, mais le Jésus de l'histoire est venu nous délivrer de cette religion-là. Et la différence est forte.
Donc, on ne peut absolument pas confondre les Esséniens avec ces...
C'est le contraire.
C'est le contraire.
C'est exactement le contraire. C'est... Le Jésus de l'histoire nous a débarrassés de cette chape de plomb qui pesait sur les hommes.
Michael Langlois,
Oui, c'est très intéressant ce que dit Jean-Baptiste Imbert. Il y a effectivement des différences radicales entre le discours de Jésus dans l'Évangile et ce qu'on peut apprendre des Esséniens ou en tout cas au travers des manuscrits de la Mer Morte. Et effectivement, cet aspect de libération, il y a des paroles très fortes dans l'Évangile. Jésus dit « si le Fils vous libère, vous serez réellement libre ». Il parle de lui-même. Et c'est vrai que Jésus est venu pour apporter une vie nouvelle. Et on parlait tout à l'heure du baptême. Il y a une différence entre un baptême qui consiste simplement à laver les souillures et le baptême du Christ. Le baptême du Christ est un baptême de mort et de résurrection, c'est-à-dire que Jésus meurt, ressuscite, et le baptême chrétien à l'heure actuelle, c'est une identification au Christ. Je participe à sa mort, je participe à sa résurrection, je vis d'ores et déjà une vie de résurrection maintenant. Ça, c'est radicalement nouveau.
On arrive à la fin de l'émission. Je voulais vous demander, qu'est-ce qui s'avait changé en vous de travailler sur Qumran, Michael Langlois ?
Moi, ça m'a rapproché de la Bible, de l'origine de la Bible, et ça, c'est passionnant.
Je dirais la même chose, c'est de nous faire approcher ce milieu juif de l'époque ancienne, du christianisme primitif, sous un autre aspect complètement différent.
Eh bien écoutez, un grand merci de nous avoir fait travailler, partager vos travaux et votre passion aussi. On s'est senti un petit peu plus proche de ces juifs-là. Je rappelle vos livres. Hein. Alors le catalogue de l'exposition de la Bibliothèque nationale de France, Qumran, le secret des manuscrits de la Mer Morte, que vous avez co-dirigé Michael Langlois. L'exposition est visible jusqu'au 11 juillet à la Bibliothèque François Mitterrand. Et puis Jean-Baptiste Imbert, l'affaire Qumran, les découvertes de la Mer Morte, que vous avez écrit avec Estelle Villeneuve, séché découverte Gallimard. Un petit merci à Estelle qui m'a aidé à préparer l'émission. Merci à Marie-Laure qui était au standard, aux deux Benoît qui étaient à la technique. Et puis demain, on change complètement de sujet. Demain, c'est le 11 juin. Et que se passe-t-il demain ? Bon, c'est le lancement de la Coupe du Monde de football. Donc demain, nous parlerons du foot. Le foot est-il une religion ? Avec l'évêque de Saint-Étienne qui est également arbitre de foot, avec un historien du foot et avec un journaliste passionné de football. Et oui, il en faut pour tous les goûts et pour tous les jours. Voilà, merci messieurs. Merci chers amis auditeurs. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée. Je vous retrouve demain. Bon pied, bon œil. Pam 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 p